Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, grâce à Mzati à la présentation.
Bonsoir. Nous allons commencer ce journal par l'intervention de Madame Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, qui dresse un tableau sombre de la situation des droits de l'homme en RDC. C'était justement ce mardi, lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. Dans ce journal, nous parlons également de l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars dans la province de la Tshopo, où le président du bureau de l'Assemblée provinciale appelle la population de sa juridiction à lutter contre la désinformation. Et puis notre invité, c'est Prince Ryan Kolongo, qui va nous parler justement de la journée zéro déchet des Nations Unies. Il évolue dans une organisation qui s'occupe de la transformation, notamment sur le plan environnemental, dans la ville de Goma. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bonsoir. Enlisement du conflit, extension de la violence et intensification de la souffrance de la population, c'est le tableau sombre de la situation des droits humains dressé par Bintou Keïta ce mardi lors des travaux du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits de l'homme en RDC. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre de la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Ronéline Tibonera nous en parle.
Lors de son intervention au Conseil des droits de l'homme à Genève, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, décrit une situation humanitaire et sécuritaire enlisée dans la violence et l'impunité, soulignant une aggravation constante depuis son dernier rapport du 7 février. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence depuis ma dernière intervention ici. Les conflits s'est enlisé, la violence s'est étendue et la souffrance des civils s'est intensifiée, a-t-elle déclaré. Elle a salué le rôle crucial du Haut Commissariat aux droits de l'homme, dont le travail maintient l'attention mondiale sur la RDC et rappelle que cette crise ne peut rester isolée sous peine de déstabiliser toute la région des Grands Lacs. Bien que félicitons les autorités congolaises pour leur projet des cadres de justice transitionnelle, annoncé le 28 mars, la chef de la MONUSCO insiste cependant sur la nécessité d'un soutien renforcé à l'équipe d'experts internationaux pour combattre l'impunité. Je salue les autorités congolaises pour leur intention de finaliser en urgence un cadre pour la justice transitionnelle comme annoncé le 28 mars, sans un pas dans la bonne direction, rassure Bintou Keïta. La chef de la MONUSCO dénonce l'expansion du M23 soutenu par les forces rwandaises ainsi que l'activisme persistant des ADF, CODECO et factions Wazalendo.
Pendant ce temps, la police nationale congolaise annonce l'ouverture d'une enquête après la mort du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston et membre de la police des circulations routières tué par la garde de la première ministre. Une vidéo devenue virale raconte les faits survenus le lundi à Kinshasa. Étienne Lusumbu pour les détails.
Alors que la police ouvre son enquête, des allégations circulent sur les réseaux sociaux accusant les gardes du corps de la première ministre Judith Suminwa d'avoir battu à mort ce policier. Un agent de police anonyme, dans une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux, affirme que le défunt aurait été tué après avoir intercepté les cortèges de la première ministre pour une infraction routière.
Les cortèges de la première ministre avaient pris les sens uniques. Nous avons créé la route pour elle. 10 minutes après, les chefs de sécurité est revenu avec la suite. Ils ont pris les roulages, ils l'ont mis dans les véhicules et l'ont battu. Ils l'ont amené vers l'auditorat où il a rendu l'âme.
La police, pour sa part, qualifie cette vidéo de désinformation. Colonel Julien Mavungu explique.
Par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation.
Tout en exprimant sa compassion à la famille du brigadier Kabea Senda, la police appelle à la prudence et exhorte la population à ne pas céder à la manipulation.
À ce sujet, Maître Carlos Mopili, activiste des droits de l'homme, réclame un procès équitable dans cette affaire. Il dénonce aussi, suivant le témoignage du collègue du policier tué, que le cortège de la première ministre roulait dans le sens contraire, en violation du code de la route. Il a été joint par Étienne Lusumbu.
Nous, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Et nous sommes là pour défendre la vie humaine parce qu'elle est sacrée.
qu'importe qu'il soit policier ou ministre ou victime du M23. Parce que récemment dans notre pays, lorsqu'on est victime du M23, c'est là où on voit le ministre Mouyaya faire des tweets de compassion. Mais lorsqu'on est victime, la police ou les militaires congolais, là il n'y a pas de compassion. Nous parlons de la mort d'une circonstance infractionnelle et de façon qui doit être menée dans une procédure de flagrance. Et il y a un témoin, son collègue qui a vécu la scène d'enlèvement, des tortures, et il venait d'être informé du décès de son collègue. Comment on veut porter le problème sur les dos de l'auditorat alors que nous sommes tous conscients qu'au niveau du cachot de l'auditorat, on ne torture pas les policiers, on ne torture pas le détenu. Et comment ces policiers s'est retrouvé au niveau de l'auditorat? Pourtant, les cortèges de la première ministre qui roulaient au sens contraire, les cortèges a violé les codes de la route.
Trop, c'est trop. La population de Kinshasa mérite un service public fiable et accessible à tous. C'est en ces termes que la nouvelle société civile congolaise dénonce avec fermeté la détérioration continue du service public d'électricité à Kinshasa. Selon l'ONG, les coupures intempestives, les délestages prolongés et les pannes généralisées plongent de nombreux habitants dans l'obscurité pendant des semaines entières. Cette situation, déclare la nouvelle société civile, met en péril la vie quotidienne des populations, paralyse les activités économiques et compromet gravement l'accès aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. On écoute les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, au micro de Jeff Ngai.
Nous exigeons une explication claire et transparente de la part des dirigeants de la SNEL sur les causes réelles de cette crise énergétique. La mise en place d'un plan d'urgence pour établir un approvisionnement stable en électricité, la suspension immédiate de facturation aux abonnés non desservis et un mécanisme de compensation pour le désagrément subi. Une réforme structurelle de la gestion de la SNEL afin d'en faire un service véritablement au service des citoyens. La démission immédiate des dirigeants de la SNEL responsables de la gestion défaillante et de la souffrance de la population quinoise. Si aucune amélioration n'est constaté dans le bref délai, la nouvelle société civile congolaise se réserve le droit d'intensifier des actions citoyennes pour faire entendre cette revendication des consommateurs quinois. Trop, c'est trop.
Nous l'avons dit dans les titres, la population de la Tchopo est appelée à vaquer paisiblement à ses occupations et à ne pas céder à la désinformation. Cette dernière n'a qu'un seul objectif, celui de semer la panique et la psychose au sein et dans le chef de la population en vue de la démoraliser. Cet appel est du président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Matheus Kanga Londimo, hier à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Une occasion pour lui de prêcher l'unité afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Une correspondance à Kisangani de Jacques Mukonkole.
Au regard des atrocités commises par les armées ougandaises et rwandaises dans les années 2000 à Kisangani, Matheus Kanga déclare que la rébellion n'est pas la bienvenue dans cette ville. Il appelle la population à l'unité et à la résistance tous azimuts.
Nous devons tous nous souder les coudes pour barrer la route à la désinformation, car l'histoire nous enseigne que la conquête des peuples commence par la conquête de son esprit. Il est temps d'en finir avec des discours simplistes et des théories complotistes. Dénonçons plutôt les cas suspects.
Dans cette logique, le président de l'Assemblée salue l'engagement du gouvernement provincial à se joindre à son institution dans la mise en place d'un contrôle provincial de résistance. Son but est de mobiliser la population et de la préparer à la résistance sous toutes ses formes. Par ailleurs, cette session étant législative, Matheus Kanga appelle les députés provinciaux à jouer pleinement leur rôle dans la production des édits et des contrôles parlementaires.
Tous les problèmes qui relèvent de notre compétence méritent scrupuleusement de trouver des solutions appropriées au travers des édits. Cette session est aussi dite une session de contrôle. Ce qui veut simplement dire que nous devons, au vu de la loi, remplir notre devoir de chambre de contrôle au niveau provincial.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'Assemblée provinciale du Kwilu a ouvert ce lundi sa première session ordinaire de la législature 2023-2028. C'était lors d'une plénière organisée au siège de l'organe délibérant à Bandundouville. Au cours de cette plénière, le président a entre autres déploré le fait que les recettes propres à la province devant servir pour des investissements en faveur de la population prennent d'autres destinations en toute impunité et cela au bénéfice de certaines personnes. Maître Claude Kumpel Mpassi promet un contrôle parlementaire rigoureux afin de redresser les choses et booster le développement tant souhaité de la province. Plus d'explications avec Irène Bomaluzolo.
Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu a notamment dénoncé l'écoulage des recettes de la province par des individus. Maître Claude Kumpel.
Les recettes propres à la province, collectées par la régie financière provinciale de Géré, ne sont pas bien mobilisées ni canalisées. Elles prennent en toute impunité des destinations inconnues, servant plus des individus que la province elle-même. Dans ce contexte, nous ferons du contrôle parlementaire un instrument efficace pour le redressement du secteur afin de donner des fils, un petit sourire à la population.
Le patron de l'organe délibérant du Kwilu est aussi revenu sur la problématique de la desserte en électricité et en eau potable, et surtout dans la ville de Bandundu.
Le président de l'Assemblée va s'impliquer personnellement en ce qui concerne la surfacturation des abonnés de la SNED, la mauvaise desserte en électricité et en eau potable dans certains quartiers de la ville de Bandundu.
Le député provincial Claude Kumpel a aussi mis un accent particulier sur la situation des déplacés internes des Kwamut qui vivent actuellement dans la province du Kwilu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
De leur côté, les députés provinciaux du Sud Kivu ont ouvert la session ordinaire de mars hier dans un contexte particulier dans les bâtiments de la mairie d'Uvira. C'est désormais Uvira qui abrite le siège des institutions de la province depuis l'occupation de la ville de Bukavu par les rebelles du M23 et leurs supplétifs de l'armée rwandaise. Seuls 18 députés sur 48 ont participé à la cérémonie d'ouverture de la session du mois de mars, la majorité ayant été dispersée par la guerre. Quelques représentants des organisations associatives et des membres du Conseil provincial de sécurité ont pris part à la cérémonie présidée par le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Fiston Kabeza, en présence du vice-gouverneur des provinces. Nous sommes à Ituri. Les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UPDF ont lancé hier une série de sensibilisations des leaders communautaires pour la recherche d'une paix durable dans les territoires de Djougou. Première étape de cette tournée, Fataki, à 110 km au nord de Bounia. Selon des sources sécuritaires, l'objectif est d'amener les chefs traditionnels et leaders communautaires à sensibiliser à leur tour les jeunes qui ont pris les armes à les déposer. Le point avec Martial Kiza, Biamongo.
On prépare à cette première rencontre télé à Fataki. Le chef du secteur de Walindou Djati et Piti, le chef de la chefferie de Baïma Badjiri, des notables venus des Boulé, Libye et Pimbo, des membres du comité local de sécurité de Fataki ainsi que des représentants des services de sécurité. Selon des sources sécuritaires, les FRDC ont d'abord expliqué aux délégués de la population le sens de la mutualisation des moyens entre l'armée congolaise et les UPDF pour le maintien de la paix dans les territoires de Djougou. Les mêmes sources indiquent que de son côté, les commandants des troupes ougandaises basées à Bethlehem, non loin de Fataki Centre, a invité le leader communautaire présent à la rencontre à sensibiliser les jeunes qui ont pris illégalement les armes contre la République à les déposer pour ne pas subir la pression des opérations militaires conjointes qui vont bientôt être lancées par les deux armées. Cet officier ougandais a précisé que la présence de UPDF en Djougou n'est pas pour protéger telle ou telle communauté, mais pour permettre aux populations des différentes communautés de vivre en paix. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Des jeunes civils sont soit tués, torturés ou enlevés au quotidien dans les villes de Goma et Bukavu par des hommes armés, dont des présumés cadres du mouvement rebelle M23. L'alerte a été faite dans un communiqué publié hier par l'organisation locale dénommée Badilika, qui signifie « changement ». Pour cette organisation de défense des droits humains, ces actes exacerbent la souffrance qu'endurent les victimes, en particulier dans ces deux villes déjà isolées de l'accès humanitaire. L'ONG appelle à une mobilisation nationale et internationale pour y mettre fin. On écoute l'un de ses responsables.
Nous sommes choqués de constater aujourd'hui les rebelles imposent son autorité à travers les actes qui sont constitutifs de crimes graves. Les jeunes de ces deux villes sont sujets de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pendant les opérations nocturnes qu'on organise les rebelles, les jeunes sont enlevés, fouettés, d'autres sont suspendus, d'autres sont aussi ligotés et soumis à des chaises électriques dans les salles interrogatoires. À travers notre monitoring, en moyenne, 8 jeunes sont tués dans ces deux villes chaque jour et environ 25 jeunes sont torturés quotidiennement. Nous rappelons et nous alertons la communauté locale, nationale et internationale que ces actes sont condamnables et nous exigeons qu'il y ait des enquêtes pour que les justiciables soient présentés devant la justice et Nous appelons aussi aux rebelles de cesser toute manipulation de la jeunesse congolaise.
Actualité internationale.
La police zimbabwéenne a annoncé ce 1er avril l'arrestation de 95 personnes accusées de promouvoir la violence publique pour avoir participé la veille à une manifestation appelant le président Emmerson Mnangagwa à quitter le pouvoir. Le groupe a comparu dans la matinée au lendemain de cette manifestation mobilisée par un ancien combattant de la guerre d'indépendance et du parti ZANU PF au pouvoir depuis 45 ans dans ces pays pauvres d'Afrique australe. Ils sont accusés d'avoir jeté des pierres sur la police et temporairement barré une importante artère selon l'accusation.
L'invité.
Le 31 mars, c'est la journée zéro déchet des Nations Unies. À cette occasion, nous recevons Prince Ryan Kolongo, ces jeunes de l'AICED, appui aux initiatives communautaires de développement durable, une ice belt de la ville de Goma. Prince Ryan parle du projet de transformation des déchets textiles en objets d'art. Le but étant de lutter contre la pollution de l'environnement et également promouvoir l'autonomisation de la jeunesse. Il s'entretient avec Chris Mukand.
Kolongo, Prince Ryan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jeune de l'ICED et c'est quoi ICED?
ICED, c'est une organisation, ça veut dire appui aux initiatives communautaires de développement durable. Et donc, on s'occupe des initiatives qui peuvent réduire les réchauffements climatiques pour améliorer l'environnement pour toute la communauté.
Ce 31 mars 2025, il y a ONU Zéro Déchet. Comment la jeunesse au niveau de ICED travaille dans cette perspective?
Oui, les déchets textiles sont un poison pour les vies de tous les habitants. Parce que beaucoup de gens se brûlent ces déchets-là sans se soucier des conséquences, alors que ces déchets, les matières textiles contiennent des additifs toxiques et aussi qui peuvent être contenus dans la peinture ou dans les fibres. Et tout cela, quand c'est brûlé ou jeté, ça revient plus tard empoisonner l'eau que nous buvons ou l'air que nous respirons. Et donc, en tant que jeunes de la société ICED, nous avons pris cette journée pour montrer qu'à partir de ces déchets textiles que tout le monde néglige, les gens se débarrassent de ça, on peut arriver à faire des œuvres d'art. On a fait quelques tableaux et c'est aussi une occasion pour montrer que faire des tableaux d'art avec les déchets textiles, c'est aussi un moyen d'autonomiser la jeunesse puisque ces déchets ne coûtent presque rien, on les trouve facilement. Mais quand vous faites un tableau, vous pouvez les vendre à 30 dollars ou même 100 dollars si c'est dans une exposition.
Et concrètement, le travail se fait comment? Des déchets en tableau?
On va chez les tailleurs pour collectionner les bouts de tissu que eux peuvent jeter ou brûler. Alors après ça, on les ramène à la maison, on va découper et puis on va les coller sur un tableau et cela permet d'avoir un résultat d'un tableau vraiment beau.
Et c'est quoi le motif qui peut apparaître sur les tableaux? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec quelle représentation par exemple?
Le choix est vraiment large, mais on a choisi de faire un masque africain et une silhouette d'une femme africaine. Mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin et la seule limite c'est l'imagination.
Donc vous avez besoin de quels matériaux?
Juste de la colle et une toile et quelques bouts de tissu et déjà on peut avoir un tableau.
Peut-on dire que vous en êtes à votre première expérience ou il y a déjà du chemin déjà parcouru?
On est au début. On a déjà fait des tableaux bien sûr avec des objets recyclés mais c'est la première fois d'utiliser du textile.
Ainsi, vous croyez contribuer à la propreté de la ville et à la sauvegarde de l'environnement?
Bien sûr, seul on ne peut rien faire, mais si cette initiative était adoptée par une majorité de personnes, ça contribuerait grandement à la réduction de la pollution des déchets textiles.
Et pour l'instant, comment se constitue l'équipe de ces jeunes qui s'adonnent à cette transformation?
Pour l'instant, il y a ceux qui s'occupent de recueillir les déchets textiles. Certains vont en faire des paillassons et puis il y en a d'autres qui vont faire des objets d'art.
Et le travail est coordonné comment? Vous travaillez chacun dans son coin ou vous êtes réunis dans un cadre spécifique?
C'est plutôt chacun dans son coin parce que chacun a sa propre vision artistique, si je peux dire comme ça.
Et quelles sont les perspectives de ce projet?
Premièrement, c'est de montrer que on peut réduire la pollution des déchets textiles en faisant des œuvres d'art. Deuxièmement, rendre autonomes certains jeunes en leur offrant une source de revenus. Et peut-être plus tard, ouvrir même des expositions dans des ateliers où les gens pourront venir acheter ces œuvres d'art pour les garder chez eux.
Prince Ryan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Voilà, avec plaisir.
Il est 19h20 à Goma. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Pele Kipelamondo et mis en onde par Mimi Kindou. Merci de l'avoir écouté.